the sun of the morning, I'm gonna chase you out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evil host man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, my last in hand, and if him slip a gun with him hand.
Il est 20h passé de 3 petites minutes et tout de suite vous allez pouvoir retrouver une nouvelle émission de Génération Sport. Ravi de vous retrouver pour cette... Pardon, excusez-moi, petit problème, c'est la régie qui change, donc il faut qu'on s'y fasse. Donc ravi, comme je le disais, de vous retrouver aujourd'hui, mardi 18 octobre, pour cette nouvelle émission de Génération Sport, l'émission sportive de Radio G. Vous en avez l'habitude, comme chaque semaine, pour décrypter toute l'actualité sportive locale et internationale. Donc voilà, on est ensemble jusqu'à 21h pour parler de pas mal de sujets, trois gros sujets en particulier, mais évidemment aussi toutes les petites actualités qui vont à côté. À ma droite, un homme qui n'a pas chômé ce week-end, qui était sur tous les fronts, en tout cas sur un front en particulier, c'est Cédric. Salut Cédric.
Salut tout le monde. Ouais, j'étais bien au frais ce week-end.
C'est bien passé?
Oh, je crois qu'on peut dire que oui, hein, là-dessus. Long week-end, mais le résultat très bon, quoi, pour les Ducs.
On en a parlé la semaine dernière, t'étais à la S-Park pour la Continental Cup. On reviendra donc dessus, plus tard dans l'émission. Tu nous feras un petit débrief de ce que t'as vu, ce que t'as senti par rapport à ce week-end.
Et puis on aura le match de la Coupe de France en fil rouge.
Ouais, c'est ça.
Ce qu'il a commencé depuis à peu près 5 minutes.
Très bien. C'est qu'on contour, d'accord. Donc voilà, les Angevins qui remettent leur titre en jeu.
C'est ça.
À ma gauche, un homme qui est pressé de cette nuit, puisque c'est le début de la NBA. Salut Faustin.
Salut tout le monde.
Impatient.
Ouais, tout à fait.
C'est le
retour. Les équipes jouer.
C'est ça, le retour aux affaires pour Stephen Curry et compagnie. Enfin, évidemment, il n'y a pas que lui, mais voilà. Ça va être quelque chose. Et puis voilà, justement, tu nous parleras de cette nouvelle saison, hein, avec tes attentes, tes favoris, par rapport à cette nouvelle saison qui va commencer. Donc, cette nuit, est-ce que tu sais déjà le match d'ouverture?
Le match d'ouverture, ce sera Philadelphie contre Boston, et après, on aura les Lakers contre les Warriors.
Donc, il y a toujours le tenant du titre.
Ouais, ça. Ouais,
qui joue, bien sûr. Donc, voilà. Par rapport à cette émission, et puis surtout on parlera également, je vous parlerai du Ballon d'Or, et puis on aura même un petit débat par rapport à la soirée et aux résultats qu'il a pu avoir par rapport à ce sacre de Karim Benzema. Vous êtes donc dans Génération Sport et on va pouvoir commencer tout de suite, dès maintenant. On va commencer avec les actus locales, avec l'Étoile Angers Basket. Une fois leur qualification pour le prochain tour de la Leaders Cup de Pro B entérinée, les joueurs de l'Étoile Angers Basket passer aux choses sérieuses ce week-end avec le début de la phase régulière de Pro B face à Chalon-sur-Saône. À domicile, les hommes de Ali Bouziane ont dû batailler pour se défaire des relégués de Jeep Elite. Après un mauvais début de match, les Angevins l'ont finalement emporté 71 à 65 et ont donc conclu leur baptême en Pro B par un succès. Prochain rendez-vous samedi prochain à Quimper pour le deuxième match de la saison. Cholet basket maintenant. Pour Cholet, le bon début de saison s'est poursuivi ce week-end par un nouveau succès sur le parquet de Bourg-en-Bresse, 87-68. Avec un match en moins que leurs adversaires, les Choletais sont bien placés au classement à la 5e place. Mais Cholet brille aussi en Europe avec la Coupe d'Europe de la FIBA qui a commencé la semaine passée par un succès contre les Roumains d'Oradea, 99-81, et prochaine joute européenne demain avec le déplacement en Belgique pour jouer Mechelen. On va passer, donc on a parlé de deux équipes d'Angers qui carburent plutôt bien en ce moment. On va switcher sur une équipe beaucoup moins en forme avec le SCO qui a encore perdu ce dimanche à Toulouse 3-2. Les Angevins ont rapidement encaissé un premier but inscrit par Dayeguer avant la magnifique égalisation de Nabil Bentaleb sur coup franc. 22 Boumen redonne l'avantage au TFC juste avant la pause après un pénalty concédé après une main de Doumbia dans la surface. Sperings aggrave le score d'une frappe magnifique et la réduction du score de Salama ne changera rien. Le SCO s'incline pour la 7e fois en 11 matchs et se retrouve inévitablement dans la zone de relégation à la 19e place. Messieurs, même question, j'ai l'impression comme chaque semaine, il y a désormais 5 coachs qui ont été virés en Ligue 1 en à peu près une semaine. Est-ce que le prochain, ce serait pas Gérald Baticle, même si Chaban a réaffirmé son soutien à son entraîneur?
Bah écoute, j'ai l'impression que non.
Toujours pas.
Il y a d'autres clubs qui ont tapé alors qu'ils ont des meilleurs résultats.
Ouais.
Cette semaine, c'est Montpellier qui change d'entraîneur. Enfin, c'est.
Ils sont 11e, on le rappelle.
Ouais, ils sont 11e. C'est un peu surprenant. Bon, j'ai l'impression que cette saison, ça va être la valse des entraîneurs.
Ouais.
C'est très très bizarre.
Bah disons qu'en plus je trouve que ça a mis du temps. C'est-à-dire que il y a des équipes, je sais pas, comme Lyon, même comme Ajaccio, qui étaient en difficulté, qui ont mis du temps à séparer leur entraîneur. Et d'ailleurs l'entraîneur d'Ajaccio est toujours là. Et là ça s'est d'un coup, ça s'est déclenché. Je pense qu'il y a aussi un timing avec la Coupe du Monde.
Ouais, je pense qu'il y a ça aussi.
Qu'il faut penser, c'est le moment parfait pour redonner un nouvel élan. Et puis après, il y a la pause. Donc voilà, ça peut bosser. Toi, Faustin, qu'est-ce que tu en penses par rapport à Gérald Baticle?
Moi, je pense que si deux parties, ce sera peut-être 2-3 matchs après la Coupe du Monde pour voir s'il n'y a toujours pas de résultat. Ça va être compliqué pour lui, quoi. Mais je pense pas qu'ils vont le virer avant. Avant la Coupe du Monde, et puis aussi il y a peut-être un défaut budgétaire côté du SCO, ouais. Ça peut être compliqué de recruter un entraîneur maintenant. Quoi.
Donc voilà, par rapport au SCO, prochain match contre Rennes, donc ça va être un petit peu compliqué.
Je crois qu'on peut l'oublier en ce match déjà, au vu de la performance de Rennes ce week-end.
Rien n'est perdu, mais bon, c'est vrai que ça me paraît quand même sur le papier compliqué.
Ouais.
Le SCO part clairement pas favori. Ce sera peut-être le dernier match de Baticle, on ne sait pas. Donc voilà, évidemment, on suivra cette histoire-là dans les semaines à venir. On va rester sur le football avec le SO Cholet qui s'est relancé ce week-end en National 1 avec un court succès 2-1 contre Bastia Borgo. Les Choletais sont actuellement 6e du championnat et pourront faire une très bonne opération en cas de victoire la semaine prochaine contre le club de Versailles. Versailles qui avait réalisé notamment un mercato assez ambitieux avec des recrues expérimentées comme Jermaine Lens, Fabien Lemoine, Rachid Alioui, l'ancien Angevin ou encore Pierre-Yves Paloma.
Qui avait fait un très beau parcours en Coupe de France.
Versailles, oui, demi-finale l'année dernière, effectivement. Donc voilà, un club ambitieux qui s'est donné les moyens de leurs ambitions. On enchaîne, donc je vais me tourner encore vers toi, Cédric, pour parler des Ducs d'Angers. Donc ces 3 victoires face à Ferencváros, Sisak et Mircurea-Ciuc, c'est un peu compliqué à dire, mais en tout cas voilà, des victoires assez larges dans l'ensemble, il me semble, surtout celle du samedi.
Ah, samedi, ça a été
une boucherie, il y a un 12-0.
Ok, champagne.
Voilà, c'était un festival offensif angevin. Est-ce que les Ducs ont été un petit peu mis en difficulté à un moment donné
au niveau du tournoi ou
Sur quelques matchs peut-être, je sais pas.
Sur le premier match, on va donner quand même le score, c'était 8-5. Sachant que dans ce match-là, ils font une très belle entrée de jeu.
Le premier du coup.
Le premier, ouais.
Okay.
Ouais. Pour le premier, c'est un but au bout de 30 secondes, je crois à peu près. but très rapide. Le deuxième au bout de 5 minutes, donc c'était une première période voilà qui était prometteuse. Ils se sont rattrapés dans la deuxième, ils reprennent l'avantage et dans la troisième ça a joué. Il y a eu de l'envie hein, des deux côtés. C'était l'équipe en fait au final très bien pour un début de tournoi puisque bah ils étaient solides. Le lendemain bon voilà ça a été alors étonnamment le premier tiers il y a 0-0. Mais dans le deuxième, ils ont commencé à mettre un coup d'accélérateur et là, ça s'est enchaîné. On le voyait hein, dès la fin du deuxième tiers, ils étaient grillés, enfin ils étaient fatigués. Ils sont revenus, ils rechutent durant le troisième et du coup, bah voilà, victoire 12-0. Et le dernier, ça a été forcément le match peut-être le plus compliqué puisque c'était les deux premiers qui s'affrontaient. Il y avait l'enjeu de... Il y a eu en plus une modification en cours de tournoi, puisqu'il y a un club qui s'est retiré pour la suite de la compétition.
Okay.
Et ce qui faisait que dans la poule où les Ducs allaient se qualifier pour la suite, il y avait une place vacante qui allait se jouer au meilleur des
places deuxièmes.
Oui,
j'avais vu ça. Ouais.
Donc forcément, bah voilà, les deux équipes voulaient quand même passer... directement, donc ça a été joué un peu plus physique.
Okay.
C'était quand même un peu plus costaud.
Mais le dernier match c'était contre les Roumains. Les Roumains qui avaient aussi gagné leur deux matchs.
Ouais. Et qui avaient mis un 5-0 d'entrée de jeu. Enfin voilà. Au premier soir, ils étaient devant nous à la différence du goal average. Donc. Mais voilà, non, ils ont fait le boulot. C'est pas évident. Voilà, c'était pour tout le monde, mais c'est pas évident d'enchaîner trois matchs.
Bien sûr.
Voilà, d'affilée. Bon, le samedi, voilà, il y a pu avoir un petit turnover quand même.
Bien sûr.
Mais dans l'ensemble, ouais, une équipe solide. Et puis, on avait surtout le gardien qui faisait ses premières armes, puisque suite à la blessure du titulaire, ils ont dû trouver en très vite un nouveau gardien pour le remplacer comme joker médical. Voilà. Sur le premier match, il y a quelques petites bavures sur les buts qu'il prend.
Ok.
Mais dans l'ensemble, c'était solide. Le samedi, c'est difficile de juger son match parce que...
En tout cas, c'est un clean sheet pour lui. Enfin, ouais, c'est un clean sheet,
oui, c'est un clean sheet. Il a dû avoir, je sais pas, peut-être 4-5 arrêts à faire dans le match. Donc c'est vraiment léger, quoi. Et le dimanche, voilà, il était quand même un peu mieux, j'ai trouvé.
Décisif.
Voilà, c'est... Enfin,
ça arrive bien slovène, je crois, hein, c'est ça?
Ouais.
Et donc voilà, qui débarque.
Qui est sorti en fait de sa retraite.
Ah d'accord, ouais.
Il n'y avait plus de club, ils l'ont du coup repris. Enfin, c'est...
Okay.
Mais bon, sa retraite, alors qu'il a une vingtaine d'années, je crois qu'il a 26 ans,
ah ouais,
c'est un jeune joueur encore. Mais,
Ok. Et donc, il a encore des choses à prouver. À
donc là, bah, voilà, il va falloir voir sur la longueur, mais en tout cas, moi, pour moi, c'est une bonne intégration à l'équipe. Il y a sûrement des petites choses à faire pour qu'il soit encore plus à l'aise, mais bon, dans l'ensemble, il n'y a pas eu trop de...
Ok. Et donc le prochain tour, donc ce sera le week-end du 18 novembre.
Ouais.
Ce sera à Cardiff.
À Cardiff. Ouais.
Donc notamment contre les Diables de Cardiff, mais il y aura également les Slovènes de Jesenice. Alors je sais pas si je prononce bien. Et les Lettoniens de Zemgale. Donc voilà, ça peut être, enfin c'est probablement d'ailleurs se corser au niveau de l'adversité.
Ouais, parce qu'on avance d'un tour. Les clubs des pays du Nord généralement.
Oui, bah la Lettonie surtout.
Ils sont très doués pour ce genre de coupe. Donc
voilà, on verra si.
À voir. Hein. Tout est possible. Hein.
Je pense qu'il y a quelque chose à jouer, non?
C'est la qualif derrière pour la finale directe.
Ouais.
Demande donc.
Il y a quoi? C'est un espèce de Final Four. C'est quoi? Parce qu'il y a deux groupes encore.
Il y a deux groupes et je crois que c'est les deux premiers de chaque groupe qui vont directement jouer la finale.
D'accord, ok.
Et apparemment,
sera en janvier, je crois.
Ce serait en janvier. Il y a des rumeurs qui ont été sorties que peut-être si Angers va en finale, ça se déroulerait du coup.
Incroyable.
À Angers. Donc, à voir si ça se trouve, on aura peut-être la finale aussi.
Bah, ce serait fou.
Mais non, en tout cas, voilà. Il y a eu du public.
Ouais, ça, c'est un bon enseignement.
Chose intéressante, tu vois, c'est que sur les trois jours, ça n'a pas été forcément le même type de public.
Ok.
Le vendredi, il y avait un peu moins de monde. Bon, forcément, début de week-end, tu sors du boulot.
Ouais, logique.
T'as pas forcément envie.
J'imagine même pas pour le match d'avant où c'était l'après-midi.
L'après-midi. Ouais, il y avait
pas grand monde, je pense.
Apparemment, t'as tout cassé, 300 personnes, quoi.
Ouais, enfin, voilà.
Donc, mais en tout cas, voilà, pour les matchs d'éduc, c'était bien blindé.
Ok.
Mais oui, t'avais un public plus connaisseur, je dirais, le vendredi.
Ok.
Le samedi, c'était un peu les gens qui venaient pour.
Ouais,
la soirée du samedi soir, on se met un petit peu en avant après auprès des collègues le lundi.
Oui.
Et le dimanche, c'était un mélange de connaisseurs de.
Voilà.
Donc non et puis bon, il y a eu une super ambiance, hein, ça a bien poussé des deux côtés des deux copes, enfin.
Bah tant mieux. Hein.
Ça a fait du bruit, hein. C'est.
Et toi, du coup, ton immersion dans le puck angevin, comment ça s'est passé?
J'étais juste à côté, mais. Ça fait du bruit, hein.
Ça fait du bruit.
Oui, oui. Pour ceux qui ont pu voir les vidéos, on les entend bien. Hein.
Donc, ah ouais.
Mais et en plus, on a eu de la chance. À chaque fois qu'il y a eu un live, il y a toujours eu un but de marqué.
Ah ouais. Ça.
Statistiquement, oui, sur chaque vidéo,
il y a. Je vais tout voir en détail, mais
il y a,
ouais,
y a
okay.
eu au moins un but.
En fait, t'étais le porte-bonheur de ouais, des
mais, mais non, ça monte bien l'ambiance.
Et bah tant mieux. Hein.
Donc voilà, on va voir ce soir là. Je sais que normalement ils sont, donc ça va pousser.
Ah, c'est à domicile.
C'est à Tours. Donc,
ah c'est à Tours. Ah oui, mais
c'est pas très loin.
Ah,
mais
le puck a fait le déplacement.
Le puck, okay. Il y a aussi les Raptors aussi qui a l'air de se déplacer aussi. Donc ils vont être bien supportés encore ce soir. Et puis bah par contre. Il va falloir qu'ils trouvent des jours pour vraiment se reposer, parce que là, le calendrier, là, jusqu'à novembre, il est infernal, hein.
Bah oui, surtout.
C'est match ce soir, match vendredi, match dimanche,
oh là.
Match mardi prochain.
Sachant qu'à chaque fois, c'est... après, il y aura l'Europe, après.
Il y aura l'Europe, du coup, au mois de novembre, de qui va se regreffer, enfin.
Il y a beaucoup de choses, quoi.
Ça, c'est bon, ça, ce soir. On va voir, ça peut-être faire des dégâts, donc, on espère voilà qu'ils vont se qualifier, mais après une semaine comme ça, j'ai envie de dire s'ils se qualifient pas, on en voudra pas trop
ça,
parce que je pense que le corps aussi au bout d'un moment
il doit dire stop.
Ouais.
Bon bah écoute bah merci. Donc je sais pas si t'as quelque chose à rajouter par rapport à ce week-end, non? Pas forcément. C'est bon.
Non, bah c'était cool. Enfin, c'est énorme, c'est vraiment une ambiance à part quand même. Hein,
ouais.
La Coupe d'Europe, hein, t'as tout un protocole quand même.
Ah oui.
Enfin, c'est un peu comme la Ligue des Champions, t'as vraiment une musique spécifique.
Okay,
enfin, c'est.
Ok.
Chose qui est étonnante, par contre, c'est que l'hymne n'est joué qu'en fin de match.
Ok.
Et c'est l'hymne de l'équipe qui gagne en fait.
D'accord. Ok.
Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait en début de match les deux hymnes joués.
Hymnes nationaux.
Oui, hymnes nationaux.
Ok. Donc
oui.
Marseillaise trois fois.
Ouais.
Ok. Très bien.
Donc voilà.
Bah écoute, c'était un très bon week-end pour toi et pour les Ducs surtout.
Ouais, qui
ont fait carton plein.
Pour la prochaine manche, bah on suivra ça, mais là c'est à distance, hein, parce que c'est l'Angleterre.
Cardiff,
c'est le passeport.
Ouais, le pays de
Galles. C'est un peu compliqué d'avoir des passeports en ce moment.
Bien sûr. Donc voilà, pour les Ducs, on évidemment suivra la suite de leur aventure, que ce soit en Coupe de France, en Ligue Magnus ou en Continental Cup. On va passer aux actus internationales avec le football pour commencer. En Ligue 1, la 11e journée était l'occasion de tourner une page pour certains clubs qui ont vu leur entraîneur se faire débarquer la semaine passée. Pour la première de Laurent Blanc, notamment sur le banc lyonnais, les Rodaniens se sont inclinés à Rennes 3-2. Après le départ d'Oscar Garcia, Reims a arraché le nul 0-0 à 9 contre 11 face à Lorient. Même résultat pour les Auxerrois qui ont partagé les points contre Nice, un but partout. Enfin, les Brestois n'ont pas pu résister à la fureur nantaise avec une lourde défaite 4-1. Pour Olivier Dalloglio, la défaite montpelliéraine à Lens 1-0 aura été fatale au coach Héroltais, démis de ses fonctions. Donc hier, on en a parlé. Dans les autres résultats, Lille a battu sèchement Strasbourg 3-0. Ajaccio et Troyes n'ont pas réussi à se départager un partout. Et Monaco a concédé le nul sur le même score contre Clermont. Mais l'attraction de cette 11e journée, c'était bien évidemment le classique entre le PSG et l'OM au Parc des Princes. Un choc dominé par Paris, mais avec des Marseillais conquérants qui ont manqué cruellement de réussite face au but. Victoire finale 1-0 pour le club de la capitale qui reste leader du championnat. On va enchaîner avec le handball. Les Bleus entamaient ce week-end leurs éliminatoires de l'Euro 2024 contre la Lettonie puis l'Italie, deux nations inférieures aux Bleus qui ont très bien géré d'ailleurs leur rencontre en s'imposant 35-18 contre les Baltes puis 40-29 contre les Transalpins. Ce rassemblement était également l'occasion pour les Bleus de fêter les 20 ans en équipe de France de Nicolas Karabatic. Un véritable vétéran de la sélection, 20 ans, rien que ça, avec un palmarès, on le sait, long comme le bras. On va enchaîner.
On va enchaîner avec une breaking.
Oula, tu me fais peur. Tu vois ça.
Ouverture du score. Le chiffre est très bizarre, mais l'application a des soucis depuis qu'il y a eu 12-0. Mais en tout cas, voilà, ouverture du score.
D'accord.
À Tours.
Pour les Ducs. Parfait. Un bon démarrage. Donc je disais, la semaine dernière se déroulait le championnat du monde de judo à Tashkent en Ouzbékistan. Les Français ont tiré un bilan mitigé un peu de ces mondiaux avec seulement 5 médailles, ce qui est quand même pas mal en soi évidemment. Seulement une médaille d'or, celle de Roman Diko dans la catégorie des plus de 78 kilos. Dans la même catégorie, sa compatriote Julia Tolofua a décroché le bronze. Autre médaille de bronze pour Manon Deketer en moins 63 kilos, mais également pour Amandine Bouchard en moins de 52 kilos. Enfin, les championnats se sont clôturés par une médaille d'argent pour l'équipe de France mixte après une défaite en finale contre le Japon. On précise également que Teddy Riner avait fait l'impasse sur ces mondiaux pour se conserver, notamment en vue des JO de Paris 2024. C'est ça que tu voulais dire?
Non, c'est une autre actualité
de judo.
Liée au judo.
Vas-y, je t'écoute.
Qui est pas forcément, voilà, une actualité qu'on aurait envie de relayer, mais il y a une figure, voilà, emblématique du judo des Pays de Loire qui est décédée la semaine dernière. Donc, monsieur Alain Cartigny, à l'âge de 85 ans. Donc il était cinquième dan, depuis 1988. Donc voilà, on présente nos hommages à sa famille, à ses proches. Et voilà, forcément, si on parle des champions du monde, on peut avoir une petite pensée aussi pour lui.
Bien sûr, par rapport évidemment à ça. On va pouvoir enchaîner. D'autres Français ont brillé lors de championnats du monde. Ce sont les cyclistes sur piste à l'occasion des mondiaux qui se disputaient en France dans le mythique vélodrome de Saint-Quentin. Le bilan est excellent pour les Bleus avec 7 médailles au total, dont 3 en or, 3 en argent et 1 en bronze. Mathilde Gros, le duo Thomas Grondin ainsi que Marie-Divine Kouamé ont tous été sacrés champions du monde durant la compétition. Et on termine par un petit point top 14 avec un coup d'œil au classement, un classement dominé par le Stade Toulousain qui n'a perdu qu'une seule fois en cette journée. Les Toulousains qui ont 6 points d'avance sur leur dauphin La Rochelle, suivi du Stade Français et de Clermont. En bas de tableau, Pau et Perpignan ferment la marche avec 9 points. Donc voilà pour toutes les actus internationales.
En tout cas, ça fait plaisir pour le cyclisme sur piste français qui a eu une petite période bien bien difficile et là qui commence à redorer son blason
petit à petit.
Ouais.
Et je crois qu'il y a même eu des records du monde battus de mémoire. Mais je veux pas.
Non, j'ai pas
trop.
Je
suivi,
sais que j'ai vu un peu les résultats ouais passer, mais
il y a eu de belles des
ouais,
beaux
ouais,
exploits.
Et puis enfin il y a même des titres qui sont tombés à peu.
Ouais.
Notamment le duo française qui mène toute la course et qui vraiment dans la fin se fait rattraper, enfin
donc voilà,
c'est encourageant à
pour les JO, contrairement au judoka où ça a
ouais,
été compliqué,
ça devient la tendance à aller vers le bas en ce moment.
Ouais, c'est un peu dommage, c'était très bien à Londres, à Rio et même à Tokyo. Là, ça devient compliqué.
Bon, il y a encore du temps, parce que de toute façon, les sélections sont pas encore faites, mais
il y a du temps pour bosser.
Ça,
pour,
ça a sûrement poussé pour prendre des places en équipe de France pour les JO.
Ça marche. Et donc, on va pouvoir passer à une petite pause musicale, le temps de respirer un petit peu. Et puis, ben, on va se retrouver juste après. Et puis là, on va s'écouter Drake avec un classique, Started from the Bottom.
Started. Dummy on the track.
Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now the whole team here, nigga. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now my whole team here, nigga. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now the whole team fucking here. I done kept it real from the jump. Living at my mama's house, we'd argue every month, nigga. I was tryna get it on my own. Working all night, traffic on the way home. And my uncle calling me like, where you at? I gave you the keys, so you bring it right back, nigga. I just think it's funny how it goes. Now I'm on the road, half a million for a show. And we started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now the whole team here, nigga. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team fucking here. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team here, nigga. Always tell stories about the man. Say I never struggled, wasn't hungry, yeah, I doubt it, nigga. I can turn your boy into the man. There ain't really much out here that's popping off without us, nigga. We just want the credit where it's due. I'ma worry about me, give a fuck about you, nigga. Just as a reminder to myself, I wear every single chain, even when I'm in the house. Cause we started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team here, nigga.
No new niggas, nigga, we don't feel that. Fuck a fake friend, where your real friends at? We don't like to do too much explaining. Story stay the same, I never changed it. No new niggas, nigga, we don't feel that. Fuck a fake friend, where your real friends at? We don't like to do too much explaining. Story stay the same through the money and the fame.
Cause we started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team here, nigga. Started from the bottom, now we here.
C'était Drake et son titre Started from the Bottom. Évidemment, je fais exprès d'avoir un accent pourri en anglais. Mais voilà, donc c'était Drake. Drake, qui est le président de quel club, Faustin? Tu vois ça? Président, alors après ouais,
actionnaire.
Il est actionnaire, c'est ça?
Ouais, il est très présent, il est au médiatique et tout.
Ok.
Et tout, évidemment.
Juste un petit truc, pense à vraiment parler face au micro. Voilà, juste ça. Donc pas Faustin.
Ok.
Tout va bien. Donc voilà, on va parler maintenant du Ballon d'Or. C'était l'événement de la soirée d'hier avec le sacre du Français Karim Benzema. C'est le cinquième Français à remporter ce trophée. Donc voilà, une soirée qui se passait à Paris au Théâtre du Châtelet. Une soirée avec notamment Didier Drogba à l'animation. Donc voilà, je sais pas si
il a fait des blagues.
Il a fait malheureusement des blagues.
Ah, on les aime bien quand ils font des blagues.
Je sais pas si c'est pas encore du niveau d'Adil Rami.
Oh, alors ça c'est décevant.
Mais c'est ouais quelques blagues. Il a donné notamment une anecdote sur avec Zidane. Voilà, on attendait tous que Zidane donne le nom du Ballon d'Or et l'autre il faisait des anecdotes, il racontait ses anecdotes. On était là en mode bon, on veut juste savoir qui va gagner. Et en plus il était là en mode quel suspense insoutenable. Alors je pense qu'on savait tous qui allait gagner. Donc voilà, Karim Benzema et Ballon d'Or. Pour les auditeurs qui ne me connaîtraient pas, c'est mon joueur préféré. Donc voilà, je vais perdre toute objectivité. Et surtout, je vais vous proposer une petite chronique. Donc voilà, pour revenir un peu sur son parcours. jusqu'à qu'il a mené jusqu'à ce ballon d'or. Je vais donc un peu sortir de mon costume de simple chroniqueur ce soir pour enfiler celui de fan de football. Et un joueur qui m'a toujours fait rêver depuis que j'ai commencé à m'intéresser au foot, c'est Karim Benzema. Ses premières années lyonnaises m'ont évidemment marqué par son talent révélé dans le plus grand club de la décennie 2000-2010 en France. Son départ au Real Madrid fut une légère déception, mais je savais que c'était aussi pour la bonne cause, pour qu'il grandisse en tant que joueur et en tant qu'homme dans le plus grand club du monde. Ses premières années sont tumultueuses, avec notamment une concurrence accrue à son poste, Higuain, Raoul, et une relation tendue avec son ancien entraîneur José Mourinho. Mais ces événements liés à son adaptation au sein de la Maison Blanche l'ont renforcé et l'ont aidé à devenir meilleur. En 2014, il décroche sa première Ligue des Champions avec le Real Madrid au sein d'un trio infernal, la BBC qu'on connaît tous, composé donc de l'ancien Lyonnais, de Cristiano Ronaldo et de Gareth Bale. Mais en 2015, la carrière de Karim Benzema prend un nouveau tournant. Il est lié à l'affaire de la sextape de son coéquipier en sélection, Mathieu Valbuena, ce qui dégrade fortement son image aux yeux du grand public en France et qui lui vaut d'être exclu, notamment de l'équipe de France. En club, tout se passe pour le mieux. Zinedine Zidane arrive à la tête de l'équipe. La relation est bonne entre les deux Français et le Real Madrid réalise le triplé en Ligue des Champions. Et voilà donc Karim Benzema, maintenant détenteur de 4 Ligues des Champions. En 2018, Zidane s'en va, Ronaldo aussi, et voilà Karim Benzema bien seul, lui qui reste sur une saison mitigée à titre personnel, malgré son but en finale de Ligue des Champions, et surtout il reste aussi sur un sacre de l'équipe de France au Mondial, que lui a vu depuis son canapé. C'est alors le début d'une nouvelle vie dans la carrière de Karim Benzema. Il est désormais le leader d'attaque de son équipe, un peu trop esselé parfois, et au fil des années, il redevient un des meilleurs numéro 9 d'Europe. La consécration arrive pour lui à l'été 2021, lorsque Didier Deschamps décide finalement de l'appeler pour disputer l'Euro. Un retour sous le maillot bleu, marqué par 2 doublés contre le Portugal, puis contre la Suisse. Et puis, il y a cette saison 2021-2022. Là, rien ne l'arrête. Décisif avec l'équipe de France lors du Final Four de la Ligue des Nations, impérial en Liga avec le Real et surtout impressionnant sur la phase finale de la Ligue des Champions. Il réalise sans aucun doute la plus grande saison de sa carrière. Alors hier, lors du décernement du Ballon d'Or 2022, il ne faisait aucun doute que le gamin de Bron allait remporter la récompense suprême pour tout joueur de foot. Mais quand son nom a été annoncé hier, ce non-suspense n'a pas atténué ma joie. Au contraire, je sais par quoi mon joueur préféré est passé pour en arriver là. Il a travaillé en silence, il a encaissé les coups, il a amélioré son hygiène de vie, il a fait le ménage dans son entourage, tout en devenant dans le même temps papa. Et je sais que, même si certains veulent résumer sa carrière à cette unique saison, c'est un joueur qui a marqué son époque, en tout cas il aura marqué la mienne et donc et il aura surtout remporté le Ballon d'Or hier soir. Voilà, c'est important pour moi voilà de mettre quelques mots sur ce sacre de Karim Benzema. Messieurs, on est d'accord, voilà, ce Ballon d'Or n'a fait l'objet d'aucune contestation possible.
Oui, clairement.
Clairement, c'est on n'avait pas trop de suspense par rapport à ça hier.
Non, aucun. À la rigueur, il y aurait pu en avoir un si le Real avait pas gagné la Champions League, mais bon, là, avec sa saison qu'il a fait, il y avait vraiment aucun doute, aucun suspense pendant la soirée.
Ouais, effectivement, c'était assez clair. Voilà, on va pas effectivement débattre sur le choix Benzema en tant que Ballon d'Or. Je vais revenir sur tout ce qui s'est passé dans la soirée. Il y a également le top 10 du classement du Ballon d'Or qui peut amener à débat. Donc Benzema premier, Sadio Mané le Sénégalais deuxième, troisième place pour Kevin De Bruyne. Donc voilà le podium de ce Ballon d'Or 2022. Ensuite, on a Lewandowski, Salah, Mbappé 6e, Courtois 7e, c'est assez polémique notamment. Et puis Vinicius 8e, Modric 9e et Haaland 10e. Voilà, il y a pas mal de d'erreurs, je ne sais pas, mais en tout cas de trucs qui font polémique. Surtout, j'ai envie de me pencher sur Courtois, on voit bien que pour un gardien, pour même défenseur avant, c'est compliqué de gagner un Ballon d'Or, en tout cas de s'accrocher aux meilleures places quand on fait ce poste-là.
Ce sera pas le dernier, hélas.
Eh oui. C'est pas le premier et c'est pas le dernier. Non.
On avait pensé qu'à un moment, ça allait quand même un petit peu plus bouger, quand même, vu qu'il montait dans les classements. Là, on a ce pseudo titre qui a été créé, qui n'existait pas avant pour les, oui, pour les gardiens.
Trophée Yashin.
Yashin, voilà. Donc,
qui l'a remporté d'ailleurs.
Oui. Donc, on commence à reconnaître un petit peu, voilà, les gardiens sur ce point de vue-là. Mais, dans ces cas-là, si le ballon d'or, ça doit être que des attaquants, bah, on met que des attaquants dans la liste et on fait, voilà, le ballon d'or du meilleur attaquant, ballon d'or du meilleur gardien, du meilleur défenseur, du meilleur entraîneur, enfin.
Ouais.
C'est
à chaque poste, quoi.
C'est voilà, non, mais c'est ça qui est ridicule.
C'est pour compenser, pardon, ouais, un peu, bah, justement, ce mauvais classement à chaque fois.
À la rigueur qu'on fasse des catégories, voilà, meilleur jeune espoir, ballon
d'or. Oui,
ça,
c'est logique.
Voilà, ça, je comprends. Mais pareil, dans cette catégorie-là, tu regardes, t'as pas forcément de gardien.
Ouais. Ouais, c'est ça.
Donc, oui, c'est des postes qui sont importants, mais qui sont pas reconnus vraiment au niveau des récompenses, quoi.
Ouais, c'est clair. Parce que c'est, moi, je trouve, personnellement, à titre personnel, je trouve que Courtois, septième avec la saison qu'il a faite, à quel point il a été décisif. Ouais,
il doit être au moins top 5.
Ouais, je suis d'accord. Mais, voire même un podium, mais oui, top 5, c'est pour moi le minimum. Et puis pareil, Vinicius, je l'aurais peut-être mis plus haut. Après, voilà, ça se joue sûrement à pas grand-chose. Mbappé, sixième, sous sa place, selon vous?
Bah oui, vu la prestation du PSG en Ligue des Champions, ils sont pas allés, bon, ils sont allés en quart, je crois.
Huitième. Éliminé par le Real.
Ouais, c'est bientôt quand même pour Mbappé, donc moi, je pense que ça se comprend.
Ok. Sixième. Toi, Cédric?
Non, il doit être largement plus bas, enfin.
Tu penses?
Bah, si un Ronaldo, qui a rien gagné, est 20e.
Ouais.
Lui, juste avec, un championnat de France, il doit pas être aussi haut, tu vois, au final.
Après, individuellement, il avait été monstrueux, et puis après, les quotas ont changé,
Ouais, mais tu vois, enfin. Ronaldo, il a quand même fait une saison, tu vois, qui était pas non plus si dégueulasse que ça,
ah,
quand
oui,
il revient. On le met 20e, et je parle même pas de Messi, qui était le grand absent de ce ballon d'or, alors que il gagne quand même la Copa.
Non, ça c'était pour le truc d'avant, c'était pas pris en compte. Parce que là, c'est sur la saison, ça a changé. Là, c'est que la saison 2021-2022. Et que du coup, la Copa, c'était en août ou juillet 2021.
L'année dernière, elle a pas compté pour le ballon d'or.
Bah si, parce que c'était 2021, donc c'était dans l'année.
C'était l'année civile l'année dernière.
Justement, là, c'est grâce à ça qu'il gagne le ballon d'or.
Pour moi, elle n'était pas comptée, mais bon, enfin. Bah, dans ces cas-là, ouais, enfin. Il doit y être quand même comme Ronaldo dans ces cas-là, et au même titre. Donc,
ouais.
Bah, après,
sûrement,
voilà.
Sûrement son nombre de buts qui est peut-être.
Quand on sait comment c'est fait le ballon d'or, hein,
oui.
C'est censé être normalement être impartial, mais bon, quand au final, c'est toujours les mêmes critères qui passent. Donc,
voilà par rapport à ça, donc le ballon d'or. Au niveau du trophée Copa, donc le trophée du meilleur jeune, c'est Gavi, le Barcelonais, qui l'a remporté. Pareil, est-ce que c'est mérité? Alors, personnellement. C'est peut-être pas un mauvais joueur, mais c'est peut-être pas le joueur que j'aurais retenu en premier. J'aurais peut-être vu un Bellingham ou un Nuno Mendes, hein, le latéral du PSG. Est-ce que vous t'y renseignez un peu sur le truc ou pas forcément? Est-ce que vous voyez quelqu'un d'autre?
Moi, je pense Moussiala aussi.
Moussiala, effectivement, c'est le troisième qui aurait pu prétendre,
ouais,
sur moi,
voilà.
Mais
sinon, ça va.
Gavi est 2004, hein, très, très, très jeune. Bon, là, encore plus jeune dans l'émission, mais ça. T'es pas encore au niveau du ballon d'or, non. Mais on te le souhaite, hein. On te le souhaite, y a pas de souci. Mais, voilà, par rapport, rien à dire, c'est vrai que sur le trophée du
non,
jeune,
parce que.
Tu les connaissais peut-être pas.
Voilà, non, puis, le Barça, cette année, j'ai pas suivi, hein, ah, c'était, ouais, pas forcément, ouais, intéressant.
Et ben, justement, en parlant du Barça, le ballon d'or féminin a été remporté par Alexia Putellas. Bon. Là, pareil, encore une fois, enfin, je vais donner encore une fois mon avis. Je trouve ça un petit peu, alors scandaleux peut-être pas, j'irai pas jusque là, mais un petit peu dommage parce que je trouve qu'elle est pas méritante dans le sens où elle a pas disputé l'Euro 2022 et elle a pas gagné avec des champions, qu'elle a perdu en finale contre Lyon et je trouve ça assez dommage et j'ai un peu l'impression parce que du coup les votants, donc c'est des journalistes, des 100 pays les mieux classés au classement FIFA. J'ai l'impression, donc j'imagine que c'est les mêmes qui votent pour le Ballon d'Or.
Pour Benzema, oui, c'est.
Oui, enfin pour le Ballon d'Or.
C'est, tu verras, ce sera le même en termes de classement. Ça va être la même typologie. Hein, ça va être des pays d'Afrique ou des choses
non,
comme ça.
Non, non, en fait, vont... le truc que je voulais dire, c'est que justement, en gros, c'est les mêmes journalistes et que ils sont pas forcément spécialisés foot féminin. Je parlais vraiment du cas foot féminin et que du coup, j'ai l'impression qu'ils sont un peu dit, ok, c'est qui a gagné la dernière fois? C'est Putellas, on va la mettre, alors qu'on n'a pas vu la saison de, enfin l'année du foot féminin. Donc je trouve ça un peu dommage parce que je pense qu'il y a des vrais experts en foot féminin ou des expertes en foot féminin qui pourraient dire que clairement Putellas ne le mérite pas cette saison parce que voilà, elle a gagné, je pense que la Liga en gros et que elle a pas disputé l'Euro, elle a pas disputé, enfin elle a pas gagné la finale de Ligue Champion. Donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage parce que j'ai l'impression que voilà, le foot féminin là-dessus n'est pas pris au sérieux.
Non, sûrement il y a quand même des Lyonnaises dans le top 5.
Et ben je crois même pas. Non, donc pas. C'est pour ça que
des parisiennes non plus.
Je trouve ça assez scandaleux c'est, que voilà. L'équipe qui a gagné avec des champions ne soit pas enfin n'ait aucune joueuse qui soit dans le top 5 déjà et puis qui encore a pu gagner.
Mais après ça vient vraiment du problème du système de vote. Enfin il y a des pays qui votent mais c'est ils votent juste sur un nom.
Non mais
au final donc chez les femmes c'est encore plus flagrant parce qu'ils vont voter mais pas pour un nom mais pour une écurie.
Oui, pour une écurie et puis même en se disant ah Putellas c'est la seule que je connais parce qu'elle a gagné l'année dernière.
Oh, et encore moi je pense que dans certains endroits c'est vraiment ah c'est par ça.
Oui, mais c'est sûrement ça aussi ouais. Bien sûr. Et voilà, le problème c'est qu'ils devraient confesser à des vrais experts en foot féminin plutôt que voilà, en plus en gros plus contrôler ceux qui votent pour ce truc. Bah, ce qui est un peu dommage.
Alors c'est bien que ce soit ouvert à plein de pays dans le monde mais faut quand même qu'il y ait une culture j'ai envie de dire du alors en plus c'est du football européen généralement qui est récompensé donc ouais. Non ouais mais bon ça c'est on aura toujours le même débat je pense dans 10 ans hein, de toute façon on changera pas le système de vote
sinon donc pour les autres prix alors c'est des prix un peu comme pas officieux mais voilà qui ne comptent pas forcément. Il y a le prix Müller du meilleur buteur de l'année, donc Lewandowski, bon là c'est basé purement sur des stats. Le prix Socrates pour Sadio Mané, c'est le prix en gros qui récompense le joueur qui a fait le plus d'actions humanitaires, des choses comme ça. Et puis enfin il y a le prix du meilleur club. Alors ça c'est une vaste blague, non seulement parce que normalement le meilleur club c'est celui qui gagne tout, enfin je sais pas. Et donc en fait, vous auriez dit qui, vous, je sais pas si vous êtes au courant de qui a gagné, mais vous auriez dit qui, normalement, en meilleur club de la saison en Europe.
Bah, c'est ça. Ils vont mettre forcément un club espagnol, de toute façon.
Donc on s'attend, on est d'accord,
logique,
au champion d'Europe, au champion d'Espagne, donc le Real.
Logiquement, oui.
Et je sais que c'est pas eux qui ont gagné.
Ils sont troisième, il y a Liverpool devant eux.
Ils ont mis quoi, le Barça premier?
Ils ont mis Manchester City. Alors qu'ils sont simplement champions d'Angleterre, qu'ils ont perdu en demi-finale contre le Real. Et en fait, bon, ce qui est pour aller dans leur sens, apparemment, ce qui a fait la différence, c'est que Manchester City, ils comprenaient l'équipe Manchester de City féminine. Donc en gros, par rapport à ça, ça fait la différence parce qu'ils ont une joueuse qui est nominée, notamment dans les 20 nommés. Et du coup, c'est un truc qui a joué parce qu'elles ont dû faire un quart de finale de.
En soi, ça paraît logique si t'as une équipe féminine et masculine, ouais, que ce soit regroupé, effectivement, tu joues sur des stades comme ça, mais
bon, quand même.
Ça, enfin, c'est pareil, c'est encore un prix de polichinelle.
Oui, clairement, ça ne sert pas à grand chose.
C'est à partir du moment où tu vas mettre des millions, ça y est, tu seras premier tous les ans.
Ouais, c'est ça. Franchement, c'est un peu ça. Bref, donc voilà pour le Ballon d'Or. Rien d'autre à déclarer, messieurs. Pas d'injustice. Non, pas forcément. Non. Je vois que ça ne réagit pas
à
trop.
À part ce qu'on a dit.
De toute façon, dans tous les cas, voilà, comme on a dit, on savait un peu qui allait gagner. On va enchaîner trop vite parce qu'on est un tout petit peu en retard avec Faustin. Tu vas nous parler du début de saison de NBA. C'est donc, tu l'as dit, ce soir. Il y a notamment la tradition qui veut que le champion joue le premier soir, c'est ça ?
Ouais.
Donc notamment Golden State. Donc voilà, bah, écoute, je vais te laisser la parole. Et puis voilà, tu vas nous présenter un peu tout ça.
Ouais, donc tout à fait, comme tu l'as dit, le championnat reprend ses droits ce soir. Avec en tête d'affiche le match des champions en titre, donc des Warriors, qui vont affronter l'équipe de LeBron James des Lakers, donc une très belle affiche pour démarrer cette saison. Je vais revenir durant ma chronique sur ce que je vais surveiller de près pour cette saison, que ce soit des joueurs, des franchises, et je vais aussi faire quelques pronos pour la saison, que ce soit au classement ou en récompense de fin de saison. Donc je vais démarrer en faisant un point de vue global de la physionomie que va avoir cette saison, parce qu'on risque d'avoir des situations assez inédites, grâce ou à cause, vous me direz, d'un certain Victor Wembanyama, dont on a parlé
en fin de
d'émission dernière, parce que le prodige français, après ses matchs à Las Vegas il y a de cela 3 semaines, a été extrêmement convoité par des franchises. Donc on va sûrement avoir le droit à un grand nombre d'équipes qui vont, plutôt que de s'accrocher pour atteindre les playoffs, ils vont tanker leur saison, c'est-à-dire qu'ils vont faire entre guillemets exprès de faire des matchs, mais en essayant de le dissimuler un peu pour finir le plus bas possible dans le classement et essayer de récupérer le choix numéro 1 de draft qui va être très 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 important cette saison. Donc cette situation va sûrement profiter aux équipes qui ont parfois du mal à atteindre les playoffs et qui vont faire le choix contraire, au lieu de tanker leur saison, vont continuer à s'accrocher. En fonction du calendrier, ça va jouer. Calendrier qui a d'ailleurs été aménagé cette saison pour réduire l'impact écologique de la NBA. Avec, par exemple, on va éviter de faire des matchs à Toronto, puis après de redescendre à San Antonio, puis de repartir à Philadelphie.
Ouais, au niveau des trajets en avion notamment.
Ouais, c'est ça. C'est surtout être des road trips où genre on va faire Philadelphie, Boston, New York d'affilée, ouais, pour ensuite revenir jouer à domicile, ce genre de choses. Donc voilà. Après, d'un autre côté, on a les équipes type Lakers qui vont essayer de conclure leur projet qui dure depuis plusieurs saisons qui n'ont pas forcément abouti.
Et du coup, en termes d'équipe, d'équipe à suivre, qu'est-ce que tu nous conseillerais ?
Moi, je vais parler d'abord des Nets qui ont l'air, comme mais c'est ce qu'on dit un peu depuis 3 ans,
ouais,
d'être prêts à 100% en ayant gardé Kevin Durant ainsi que Kyrie Irving durant cette intersaison. Mais ça avait fait beaucoup de bruit d'ailleurs. On a aussi l'arrivée de Ben Simmons qui va enfin pouvoir jouer et peut-être performer en saison régulière ainsi que conclure en play-off. J'ai aussi hâte de voir ce que peut donner l'effectif des Clippers, le deuxième club de Los Angeles, qui, à mon avis, est devenu le meilleur club de Los Angeles si les Lakers continuent sur leur lancée. Avec là aussi le retour à 100% de deux joueurs qui sont Kawhi Leonard, qui n'avait plus trop joué à 100% depuis sa saison à Toronto où il avait été sacré champion, ainsi que Paul George, qui avait fait une fin de saison assez concluante. Et ils ont aussi eu l'arrivée de John Wall, qui va complètement les aider, notamment à la mène, et qui semble en pleine forme lui aussi. Je vais aussi vous parler du projet de Minnesota, qui a réalisé une sacrée intersaison, peut-être la meilleure de toutes les franchises, en récupérant Rudy Gobert, hein, essentiellement, pour renforcer leur raquette. A priori, il serait utilisé pour ses qualités défensives, et son scoring serait plus mis à l'écart, car il a de très bons joueurs qui l'entourent, contrairement à ce qu'il avait à Utah, où il était un peu esselé, lui, avec Donovan Mitchell. Cette équipe, je la trouve très intéressante, car elle est extrêmement complète. Ça joue très bien à l'extérieur ainsi qu'à l'intérieur. Ça attaque et ça défend super bien. Bref, c'est là aussi une équipe prétendante au titre, à mon avis. Je sais pas si vous avez peut-être un coup de cœur. Enfin,
Moi, en vrai, je regarde évidemment un peu de loin tout ça, mais c'est vrai que il y a des projets un peu comme les Lakers et les Nets, où ça fait plusieurs saisons qu'on dit que voilà, ils ont fait des très bons recrutements et qu'ils doivent gagner. Donc voilà, ce serait bien de les voir gagner un petit peu, notamment les Nets. Je dis ça parce que je suis allé les voir en vrai, c'est pour ça, il y a quelques années de ça. Donc, pourquoi pas les Nets? En vrai, ça pourrait être pas mal.
Ok. Maintenant, je vais faire un focus sur certains joueurs. J'ai commencé par Pascal Siakam, car évidemment, j'allais pas faire une chronique sur la NBA sans parler de Toronto. Plusieurs choses intéressantes à son sujet. La première, c'est qu'il a 28 ans et qu'il est donc clairement entré dans son prime. Ensuite, il a vu la saison dernière et notamment la phase pré-All-Star Game où il a été moins performant, qu'il a cette année une vraie équipe sur qui compter, avec notamment l'ancien rookie Scottie Barnes qui a fini Rookie of the Year l'année dernière, ainsi que son meneur Fred VanVleet. Il a cependant réussi une fin de saison vraiment très très complète et vraiment incroyable sur tout point de vue. Et s'il continue sur cette dynamique, je serais presque à dire que Toronto est une équipe prétendante au titre, mais bon.
Tu vas t'enflammer.
Voilà, c'est un peu audacieux quand même. Ensuite, j'aurais voulu parler du rookie Chet Holmgren, mais malheureusement, il s'est blessé lors de la pré-saison pour toute sa saison. Il aura donc une deuxième saison de rookie l'année prochaine. À la place, je vais aller voir du côté de Dallas pour vous parler de Luka Doncic. Et vu comment il a roulé sur l'Euro cet été, j'en entends pas moins de sa part en NBA. Désormais associé à un vrai pivot qui est Christian Wood, il va pouvoir se développer à une vitesse monstrueuse et potentiellement être un grand prétendant au titre de MVP, à mon avis, si Dallas fait une bonne saison régulière. Et même question pour vous, messieurs, est-ce que vous avez un joueur qui vous intéresse?
Bah ouais, je sais pas tellement. Peut-être Rudy Gobert, par rapport au côté français, puis voir comment il va s'adapter à son nouveau club. Je pense que ça peut être intéressant. Rapidement, donc, Faustin, tes petits pronos pour cette saison?
Ouais, j'ai démarré à l'Est. En mettant mon champion, pour moi, ce serait les Bucks, qui avait fini troisième cette année, et je les vois bien finir premier sans forcément aller en finale NBA ensuite. Mais voilà, et à mon avis, ce serait aussi suivi de près par les Nets. À l'Ouest, je vais mettre les Clippers, qui seraient à mon avis largement premier si l'effectif tient toutes ses promesses, potentiellement même je les mettrais champion NBA si on a un Kawhi qui revient à son meilleur niveau comme il l'était à Toronto, en mode Michael Jordan pendant les playoffs. En MVP, je vais mettre Luka Doncic, juste avant, pour tout ce qu'il a...
Défenseur,
je te mettrais Rudy Gobert, une fois de plus, pour tout ce qu'il a développé du côté de Minnesota.
Et enfin le rookie.
En rookie, j'aurais mis Chet Holmgren, mais c'est vraiment un joueur que j'admire. Lui, j'aime beaucoup son profil, mais du coup, je vais mettre un peu par défaut Paolo Banchero, qui a des choses à faire du côté de Orlando, qui était le numéro 1 de la draft. Voilà.
Ça marche bien. Merci beaucoup pour ce point sur la NBA. De toute façon, voilà, on suivra si tu as eu raison dans les semaines. Évidemment, on fera toujours un point sur la NBA. Voilà, qui va commencer dès ce soir pour les couches tard. Ce sera aux alentours de 1h du matin.
Ouais, ce sera le match Philadelphie contre Celtics. Et je crois que c'est plus 3-4 heures le match Lakers Warriors.
Donc voilà. Donc,
heureusement que les vacances arrivent.
Demain, j'ai pas cours.
Oh là 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 là. Il va se régaler.
Tout se perd.
Donc voilà, c'est la fin de notre émission. C'était un plaisir d'être avec vous. Cédric, avant de se quitter, petit point score pour les Ducs en Coupe de France.
Entre-temps, le score a évolué puisque Tours avait égalisé.
Oui.
Et les Ducs sont repassés devant. 2-1 pour les Ducs. Et on est dans le deuxième tiers.
Très bien. Et bien voilà, donc ça se passe bien plutôt pour les Ducs.
Pour l'instant, ça a l'air de tenir.
Ça tient. On va vous laisser avec Imaginaire juste après nous. Le temps pour nous de vous dire au revoir.
Peut-être aussi passer une petite information qu'on a reçue. Alors, faut que je retrouve le poste.
C'est pour Yann, c'est ça? Pour l'événement Yann?
Non, je pense que c'est l'autre événement qui a lieu.
Ok, bah écoute, retrouve le mail. Ouais. Moi, je vais faire une petite pub pour Yann. Yann qui organise à Saint-Martin-du-Fouillou, donc à la salle Barbara, deux événements, donc samedi soir notamment, donc le concert de Benjamin Pia et une pièce de théâtre qui s'appelle Démocratie. Ce sera dimanche après-midi. Donc voilà, allez voir sur Un Pont de Maine. Voilà, Un Pont de Maine, je crois que c'est ça le nom de la page Facebook. On va d'ailleurs même nous-mêmes sur nos réseaux peut-être faire le relais des infos, mais voilà, en tout cas ça pourrait permettre à Yann et à ses neveux et nièces de faire le parcours de l'Europe Raid, qui on le rappelle au début est un rallye solidaire, donc voilà, c'est aussi pour la bonne cause. Est-ce que tu as trouvé avant de lancer?
Voilà, non, c'est que demain aussi il y a au complexe athlétisme, donc au Pont de C, il y a le colosse au pied d'argile que tu avais interviewé, je crois.
Je crois qu'on avait interviewé.
Voilà. Ils font demain une journée de sensibilisation sur les risques de violences sexuelles et du bizutage en milieu sportif. Donc il y a différents créneaux, dont le créneau de 19h à 21h qui est ouvert à tous. Ça sera une conférence adulte, parents, dirigeants, entraîneurs, enseignants, voilà, principal d'établissement. Et voilà. Ouais. Je crois que, enfin, la dernière fois, c'était un peu le même sujet qui avait été évoqué.
Un sujet hyper important.
Ouais. Voilà, c'est tabou encore dans certaines disciplines d'en parler. Les gens ont toujours plus ou moins peur d'en parler, alors qu'il faut pas hésiter. Donc
voilà, on passe le bon par rapport à ces événements-là. On va vous laisser, donc, sans plus tarder, vous laisser avec Imaginaire. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine.
Diva.